Cours de critique par le père Philippe à Saint-Joseph le 19 février 1987.
Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'intellect passif, que l'on a associé, à l'intellect agent? L'intellect, comprenez bien que l'intelligence, nous la posons comme une puissance à partir de nos opérations. Or, l'appréhension apparaît bien comme l'opération de la réceptivité la plus grande de l'intelligence. L'intelligence est ouverte aux déterminations des diverses réalités qu'elle saisit à partir des images, à partir de nos sensations. Alors, précisons bien quand je dis l'image est illuminée par l'intellect agent. Il faudrait préciser les états différents de l'image. L'image qui demeure liée toujours aux sensations externes et l'image fruit de la mémoire. Autrement dit, notre intelligence n'est parfaitement elle-même que grâce au jugement d'existence, nous allons voir tout de suite. Et donc, l'image dont on se sert en premier lieu, dont se sert l'intellect agent, c'est l'image qui reste liée aux sensations externes. C'est donc une image beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus déterminée par les sensibles propres. C'est une image qui est en continuité avec les sens externes. Tandis que l'image qui n'est plus liée aux expériences externes est une image qui est beaucoup plus reconstruite par moi, par la mémoire. Faites une petite expérience, c'est facile. Quand vous regardez quelque chose, vous vous représentez l'image, et puis quand vous n'êtes plus en présence des sensations externes, vous vous ressouvenez de l'image. Et voyez ce que Sartre dit là-dessus. Il fait des petites remarques extrêmement intéressantes. En démontrant justement que l'image qui est le fruit d'une réminiscence est beaucoup plus vague, beaucoup moins déterminée. Ça fait cette petite remarque quand vous voyez un bâtiment, un grand bâtiment. Bon, vous pouvez compter le nombre de fenêtres si votre sensation est là présente, mais si vous fermez les yeux sans avoir compté les fenêtres avant, vous n'arriverez pas à compter le nombre de fenêtres. L'image perd de sa précision et cette distinction. Et donc, si l'image perd cette précision et cette distinction, vous comprenez bien que l'intellect agent ne pourra pas agir de la même façon. Et donc, la forme intentionnelle perdra en précision. Et ça explique des quantités de choses. La réminiscence est source constamment d'erreurs. Vieil adage, l'image, l'imagination et la folle du logis, on voit très bien ce que ça veut dire. C'est qu'on croit que c'est comme ça. Et puis en vrai, c'est pas comme ça. C'est constamment comme ça dans notre vie, quand on est un tout petit peu attentif à ce rôle de l'imagination. C'est que ce n'est que par l'expérience immédiate des sens externes, et c'est ce qui fait comprendre toute la différence entre l'expérience interne et l'expérience externe. l'expérience interne qui n'est plus en contact avec le point de vue de l'extérieur, qui n'est plus en contact direct avec les sens externes, n'a pas du tout la même précision. Ça peut être une force d'intériorité affective très grande, mais par l'imagination qui est toujours présente. Je ne peux pas avoir une expérience sans l'imagination. Même l'expérience la plus mystique qui soit, donc la plus pure, la plus pénétrante qui soit, implique toujours un fond imaginatif. Elle se sert, point de vue de l'expérience, de l'exercice de l'imagination. Et c'est l'imagination qui donc donne cette espèce, non pas le fond sonore, mais le fond imaginatif. Le fond imaginatif de mes expériences externes et de toutes mes expériences internes. Et c'est toujours sur cette image ou reliée au sens externe, ou l'image coupée des sens externes, et une image à l'état second, un petit peu un frais, un petit peu un racine, coupée des sens externes, qui est illuminée par la dalle. Et alors, c'est à l'intérieur même de mon opération d'assimilation, dont je n'ai pas, je l'ai dit au début, l'expérience à l'état pur, puisque l'appréhension implique toujours un lien avec le jugement. C'est en analysant cette assimilation que je vois le double rôle de l'intelligence dans ce s'émovérer, dans le fait de cette autonomie de l'intelligence dans sa propre activité, dans ce qu'elle a de tout à fait fondamental et primitif, ce double rôle de l'intelligence, d'être une intelligence qui accueille et une intelligence qui transforme. L'intelligence qui accueille, c'est l'intellect passif. Alors elle est toute réceptivité. L'intelligence à l'état nature est toute réceptivité. À l'état sauvage, je dirais dans le monde, est toute réceptivité. Elle est accueil. L'intelligence est premièrement accueillante. Parce que elle a un appétit de connaissance, un appétit d'assimilation. Point de départ de cette autonomie vitale qu'est la pensée. Donc l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus foncier, est une intelligence réceptive, liée dans son exercice à l'imagination. Mais cette image est transformée, liée dans son exercice à l'image, plus juste de dire l'image, c'est l'imagination. Mais cette imagination est transformée par cet intellect actif qui lui transforme. Alors c'est là qu'il faut bien comprendre, l'intellect actif est au service de l'intellect passif, naturellement. C'est pour penser l'intellect actif. C'est pour expliquer le s'émovérer, l'autonomie fondamentale de l'intelligence. Et donc cet intellect actif transforme l'image en la purifiant. Et en la purifiant, il y a cette abstraction. Mais l'intellect actif est respectueux des déterminations de l'image qui viennent de la réalité. Des déterminations de l'image qui sont grâce aux sensations externes en continuité directe avec la réalité. De sorte que c'est comme une lumière par rapport aux couleurs. La lumière ne donne pas aux couleurs leur détermination propre, mais elle permet aux couleurs d'être visibles. De même, l'intellect actif ne donne pas les déterminations de l'image particulier. Sa couleur, si j'ose dire, c'est-à-dire sa détermination. Mais elle permet à ses déterminations de devenir des formes intelligibles, species impressa, une forme intelligible qui détermine un tel état actif et qui détermine un tel état passif. Et comment se fait cette distinction entre intellect passif et intellect actif? C'est l'analyse même de l'assimilation. J'ai posé l'intellect actif comme condition sine qua non pour expliquer le passage de l'image à la forme intentionnelle. Et je vois par le fait même cette distinction d'un intellect actif et d'intellect passif à l'intérieur même de mon assimilation vitale. L'assimilation vitale implique les deux. Alors, ce qui serait très intéressant, point de vue critique, là encore, c'est de voir que ici, je transpose, dans le domaine de l'esprit, la distinction être en acte et l'être en puissance. Et je vois que tout de suite, cette distinction de l'être en acte et de l'être en puissance, au niveau de l'esprit, se fait à l'intérieur même d'une même puissance. Au niveau de l'être, l'être en acte et l'être en puissance ne sont jamais le même être. Au niveau de l'esprit, qui est vie, l'intellect en acte et l'intellect en puissance, c'est la même puissance. Vitale. C'est le même esprit. Et ça, c'est très important parce que ça a été l'origine de cette erreur de considérer que l'intellect actif ne pouvait pas être immanent à l'intellect passif. Et donc, il était nécessairement transcendant. C'est la fameuse théorie d'Averroès qui dit que l'intellect actif est unique pour tous les hommes. Il transcende, il est un pour tous les hommes. Et ce qui est l'originalité de chacun, c'est l'intellect passif. Vous voyez que cette théorie est tout simplement la projection d'une distinction métaphysique dans l'ordre de l'esprit, transposition univoque, oubliant que les distinctions au niveau de l'être ne sont plus les mêmes au niveau de la vie et au niveau de l'esprit. L'esprit peut unir dans la même réalité un aspect actuel et un aspect potentiel. C'est pas contradictoire puisque le vivant se meut. S'il se meut, il est à la fois actif et passif. C'est le propre de tous les vivants. Il se meut, donc il est actif. Et puisqu'il est mu, il est passif. Et au sommet de ce s'émovere, c'est l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence, qui est à la fois actif et passif. Ça, c'est très important de bien comprendre pour répondre à cette erreur d'Averroès, qui a continué. Et d'une certaine manière, vous voyez, a été l'origine de l'illumination de saint Augustin. Pour saint Augustin, nous sommes illuminés directement par Dieu pour chacun de nos actes de connaissance. Donc il y a un télescopage de la puissance, de la cause seconde au niveau de l'esprit, au niveau du vivant. Ça paraît à la au point de départ, très très beau, l'augustinisme. Et ça Bonaventure un peu la même chose. Et alors, ça enlève à l'esprit humain la possibilité de la liberté. C'est ça en définitive. Si l'intellect n'est pas une puissance capable de se mouvoir, si elle est mue par l'illumination divine, vous ne pouvez plus expliquer le point de vue de la liberté. C'est pour ça que c'est si important de maintenir l'intellect agent et l'intellect possible comme une seule puissance ayant ces deux aspects. Distinction réelle à l'intérieur de cette même puissance. Pouvez-vous revenir sur la différence de signification entre Morphée et Eidos et Noumen de Kant? Comment d'autre part expliquer que la foi, qui est par essence immatérielle et un don de Dieu, s'origine dans le jugement d'existence? J'y reviendrai. Morphée et Eidos, en un mot seulement, parce que je veux m'entrer. Morphée, c'est la forme qui informe la matière. Eidos, c'est la forme capable de déterminer l'intelligence. C'est la même forme, mais dans deux fonctions différentes, ou dans deux relations différentes. Morphée, c'est toujours la forme physique qui informe la matière. Ça, c'est la distinction qu'Aristote fait face à Platon. Le mot Eidos de Platon, c'est beaucoup plus la forme qui détermine l'intelligence. Mais la forme spécifie toujours. Elle spécifie ou la matière ou l'intelligence. C'est le double rôle de la forme. Et en tant qu'elle spécifie l'intelligence, Eidos, totien einein, quidite. Nous allons maintenant passer au point de vue du jugement. Avant, je m'arrête un instant sur ce qu'est le concept, nous en avons déjà parlé, fruit de l'assimilation. Ce concept fruit de l'assimilation, ne le saisissons pas immédiatement. Nous ne pouvons le saisir que dans une attitude réflexive. Et ce concept sur lequel les scolastiques ont beaucoup insisté, regardez comment Jean de Saint-Thomas tourne et retourne sa pensée autour du concept. Et on comprend très bien à cause de l'analogie du verbe en théologie. Le concept est donc un pur coup, comme disent les scolastiques. C'est-à-dire, c'est une forme intentionnelle, assimilée, qui rend présent à l'intelligence la réalité assimilée dans son, dans sa quidité. Par le concept, la réalité, selon sa quidité, termine l'acte de connaissance d'assimilation, termine l'acte de connaissance d'appréhension. Puisque c'est quelque chose de purement spirituel, ce n'est plus quelque chose de localisé. Vous voyez, dans quel sens ? C'est localisé en ce sens que c'est dans mon esprit, c'est bien évident. Mais l'esprit comme tel ne s'oppose pas dialectiquement à la réalité sensible. Je suis parti de la réalité sensible. Et quand j'assimile la forme appréhendée à travers l'image, l'intelligence est présente à la réalité sensible qui était au point de départ. Nous nous imaginons tout le temps. Et dès qu'on imagine, c'est spatial. Et donc, c'est extérieur. Il faut bien saisir ce que c'est que l'esprit. L'esprit n'est pas extérieur à la matière, c'est la matière qui est extérieure à l'esprit. Dieu est la créature, si vous voulez. Dieu n'est pas extérieur à sa créature, c'est la créature qui est extérieure à Dieu. Et donc, l'esprit n'est pas extérieur à la réalité sensible. Mais l'esprit, l'intelligence, en connaissant, en appréhendant, est présente dans la réalité appréhendée. Présente par le point de vue de la forme intentionnelle. Cette forme intentionnelle, intelligée, qui est le concept. Et donc, ce qui rend présent à l'intelligence, la réalité assimilée, sous le point de vue de sa quiddité. Et c'est pour ça qu'on dira que c'est un pur goût. Ce n'est pas un quad. L'intelligence, en appréhendant, ne se termine pas au concept. Elle se termine à la réalité appréhendée, mais assimilée. Donc, c'est dans l'intériorité de la vie d'intelligence qu'il faut saisir le concept. Mais il faut saisir le concept comme ce par quoi je saisis la quiddité de la réalité sensible. Je ne m'enferme pas dans le concept. C'est très très important ça, parce que de fait, il y a eu toute une vision scolastique où on s'est enfermé dans le concept. Et ceci dès Occam. Donc très peu de temps après saint Thomas. Parce que je crois qu'un des très grands efforts de saint Thomas, ça a été de préciser ce qu'est le concept. Et tout de suite, Occam fait du concept un quad, c'est-à-dire quelque chose qui est connu immédiatement par lui-même. Et l'intelligence, alors, à ce moment-là, se termine au concept. Vous comprenez que c'est très grave comme position. Si l'intelligence se termine au concept, je fais du concept une idée. C'est-à-dire ce qui est connu immédiatement par lui-même. Et non pas ce par quoi je connais la réalité. Donc réfléchissez bien là-dessus. C'est toute la différence pour saint Thomas. Et je crois qu'il faut dire, pour l'analyse que nous faisons au point de vue critique, entre le concept et l'idéa. L'idéa artistique est ce que je connais directement et immédiatement. Et c'est ce par quoi je connais les autres choses. Pour que ce soit ce par quoi je connais les autres choses, il faut que l'idéa soit connue. En elle-même, j'ai une idée. Vous savez bien quand vous avez une idée en tête, quoi. Ce qu'on appelle des idées forces. Vous savez bien qu'il y a des têtes bretonnes quand ils ont des idées. Et il faut que ça se réalise jusqu'au bout. Hein. Il y a la tête des Flamands aussi. Les idéaux qui sont alors vraiment très très enracinés et qui veulent aller jusqu'au bout. Alors c'est ce par quoi je connais les autres choses. Donc elle est connue en premier lieu. Tandis que le verbe, il s'efface. Ça, c'est la limpidité du verbe dans cette connaissance de l'appréhension. Parce que l'idéa, en réalité, comme nous allons le voir, est toujours le fruit d'un jugement. L'appréhension saisie dans toute sa pureté a comme fruit une forme intentionnelle, intelligée, qu'on appelle le concept. Et ce concept n'est saisi que lorsque je réfléchis sur lui, à partir du jugement. Autrement, il est quelque chose que je ne saisis pas en lui-même, mais que je saisis dans la réalité sensible, dans la laquelle je saisis sa quiddité. C'est pour ça que c'est si difficile de bien distinguer concept et quiddité. Quiddité, c'est le fondement objectif du concept. Et le concept, c'est, comprenez bien, c'est la signification de la quiddité au plus intime de mon intelligence qu'il appréhende. Le concept est dans l'intelligence et la quiddité est dans la réalité. Le concept donc n'existe que selon un mode intentionnel. Et le concept existera selon ce mode intentionnel d'une façon universelle. Tandis que la quiddité existe dans la réalité d'une manière existentielle. Le totienainai, la quiddité, existe dans la réalité. C'est la nature. C'est la nature en tant que connue, en tant qu'appréhendée. Mais c'est dans la réalité. Vous voyez, le point de vue objectif et subjectif dans son premier moment de distinction. Ça, c'est capital. Les erreurs à la source ont d'immenses conséquences quand les fleuves tombent dans la mer. Or, nous sommes ici dans l'analyse la plus fondamentale de ma vie intellectuelle. Je saisis le premier moment du concept. L'analogie avec le premier moment de la conception. Les erreurs biologiques au niveau de la conception ont d'immenses conséquences sur tout le reste. De même, les erreurs ou les confusions que je fais pour ce premier moment de ma vie intellectuelle qui appréhende et qui conçoit ont d'immenses conséquences après. Or, l'erreur fondamentale, c'est de considérer le concept comme un quoi ou comme un quoi. Ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même très important, au moins le signaler. Je vous l'aurais signalé. Si vous tombez dans les erreurs, je veux dire, attention, je vous l'ai dit. Alors, je mettrai Saint Thomas, Occam. Alors, ne tombez pas dans Occam. C'est un puits profond. Ou plus exactement, c'est un puits très superficiel. N'est-ce pas? Parce que c'est la logique. Vous voyez que c'est curieux, hein? C'est pas grand-chose. Le quoi et le quad. Le quoi, ce par quoi je connais. Mais uniquement ça, dans toute sa pureté. Et c'est pour ça que Jean de Saint-Thomas dira que le concept, c'est un signe formel. Je dis l'expression, puisque c'est beau comme analyse. L'analyse de Jean de Saint-Thomas, elle est difficile, hein? Mais elle est très intéressante, c'est un signe formel, le quoi. C'est un signe, c'est-à-dire quelque chose qui est tout entier relatif à la réalité sensible. Et dans la réalité sensible, c'est la quiddité. Vers laquelle ce signe se réfère. L'acuité étant dans la réalité, dans la réalité existante. Cette réalité existante que je saisis grâce à ma sensation. Grâce à l'image liée à la sensation. Alors, ce quoi, ce concept, signe formel, c'est-à-dire, il est tout entier dans sa structure propre. Il est tout entier relatif à la quiddité, d'une manière telle qu'il ne fait pas nombre avec la quiddité. C'est pour ça qu'on dit signe formel. Le signe naturel, c'est la fumée distincte du feu. Tandis que le signe formel, c'est unique. Hein? Le signe formel n'existe qu'à l'intérieur de l'intelligence qui connaît et qui saisit la réalité. Et en saisissant la réalité, elle est une. fluidité que j'assimile. C'est la seule chose assimilable. Un point de vue intellectuel, c'est ça la signification d'un réalité. Ce problème si important de la signification, on doit le saisir là. Et si on ne le saisit pas là, on ne le saisit plus. Il faut le saisir à son origine. Tandis que le quad, c'est l'idéa. C'est quelque chose que je saisis en premier lieu. Donc, c'est l'idéa qui se distinguerait par le fait même. Ce ne serait plus un signe formel, ce serait un signe naturel. Cette idéa renverrait bien à la réalité sensible. C'est sûr, Occam le reconnaît. Cette idéa, mais elle est d'abord conçue pour elle-même. Elle est d'abord saisie pour elle-même. Et donc, elle termine vraiment mon acte de connaissance. Alors que le concept pris en lui-même ne termine pas l'appréhension. C'est le concept lié à l'acuité. Et c'est l'acuité qui termine mon appréhension. Mais comme c'est important, bien voir cette distinction. Ça, c'est toute la distinction entre Saint-Thomas et Occam. Et là, je la saisis à l'origine. Je prends Occam parce qu'il est particulièrement représentatif. Vous voyez, je pourrais prendre Descartes. Descartes, il n'y a plus de concept. Ce sont les idées. Confusion entre concept et idée. Alors ça, c'est une distinction extrêmement importante. La connaissance artistique dans l'inspiration est source d'idées, pas de concepts. Un artiste ne ferait rien avec des concepts. Le concept n'est pas pratique. Le concept, c'est la réceptivité de l'intelligence par rapport à la réalité. Tandis que l'idéa, c'est quelque chose que je possède. C'est un avoir. D'une certaine manière, vous voyez, le concept, dans toute sa pureté, n'est pas un avoir. C'est l'intelligence qui est relative à la réalité et qui l'assimile. Et qui l'assimile intentionnellement, sans la posséder. C'est plutôt la réalité qui possède l'intelligence, sans la posséder. Tandis que l'idéa est un avoir que je possède. Et je peux manipuler des idées. Je ne peux pas manipuler des concepts au sens strict. Tandis que l'idéa, c'est quelque chose que je possède. Donc là, il y a un point, un os très important à bien saisir. Parce que c'est à partir de là que vous allez tout de suite comprendre la position très différente d'un saint Thomas et d'Occam. Alors, je les prends d'abord historiquement, puis après, on verra comment celle de saint Thomas est acceptable. Et que celle d'Occam me conduit directement à la logique et fait par le fait même la réduction de la métaphysique à la logique. Et c'est là où je le comprends. Pour Occam, je recommençais par l'erreur, parce que l'erreur est beaucoup plus proche de notre imagination. Pour Occam, le jugement, c'est l'addition d'appréhension. Vous comprenez que les idéas peuvent s'additionner. Une idéa plus une autre idéa forme la composition du jugement. Je vois le jugement, seconde opération de l'intelligence, qui est toujours quelque chose de composé. Et Occam reprend ça d'Aristote. Le propre du jugement, c'est d'impliquer la composition, la division. En effet, quand vous dites ceci est, ou quand vous dites ceci n'est pas, vous êtes en face de ceci et. C'est une addition. Vous avez l'idéa du ceci et vous avez l'idéa de et. Vous avez le nom et le verbe. Tous vos jugements impliquent nom et verbe. Vous vous souvenez? C'est à cause de ça qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter au jugement, parce que le jugement était complexe. Donc je reviens au jugement et je revois cette complexité du jugement. D'où vient cette complexité du jugement? Comment expliquer cette complexité du jugement? Du nom et du verbe. Oh, quand même, mais c'est très simple. Puisque j'ai des idéas, puisque j'ai une idéa plus une autre idéa, je les additionne. J'additionne les idéas. Donc j'ai ceci plus et ceci c'est ceci et. Vous voyez ce que devient le jugement d'existence? Ceci est, c'est l'addition de deux aspects, de deux appréhensions que j'additionne. Oui. D'où est né ce terme scolastique de la copule? Pierre est intelligent. Vous comprenez bien que s'il y a des additions, il faut de la colle. Bien coller les idées. Alors on les colle comment? Mais c'est très simple. Pierre est intelligent. Voilà la copule. On colle les deux et ça se colle très bien. Pierre c'est une idée. Intelligent c'est une idée. Je les colle ensemble. Et, voyez le mécanisme de l'intelligence. L'intelligence devient quelque chose de mécanique. C'est une mécano, quoi. J'ai la locomotive, j'ai un par derrière, wagon, puis je les lis ensemble. J'ai un petit carré, j'ai un autre petit carré, je les lis ensemble. Ça devient de la mécanique. Alors j'explique, c'est Occam qui explique comme ça le jugement par l'addition. Oui. Ou au contraire, la division. Alors, n'est pas, j'ajoute la négation. La négation, ça décolle. Et je supprime par le fait même la colle. Faut un robinet d'eau chaude. La négation, c'est le robinet d'eau chaude. Et là, ça fait supprimer deux choses distinctes. Pierre n'est pas intelligent. Je le regrette. Pierre n'est pas intelligent. Donc, je décolle ce qui était collé avant. Et la négation, tout simplement, remettre chacun dans son domaine propre. Vous voyez que ça explique le jugement d'une manière tout extérieure. C'est une manière tout extérieure. Et je dirais tout simplement que le jugement d'existence, c'est l'appréhension plus la sensation qui me met en contact avec l'existé, parce que « est », c'est l'existé. L'existé n'existe que dans la réalité sensible. Or, cette réalité sensible, je ne la touche que grâce à la sensation, et que par la sensation. Alors, je dirais, le jugement d'existence, c'est tout simplement l'appréhension plus la sensation. Par laquelle je suis en contact avec les autres réalités. Alors vous voyez qu'à ce moment-là, je ne connais pas la réalité en profondeur. Je ne connais que ce que j'ai appréhendé, donc l'acuité. Et l'exister de la réalité, je ne fais que le toucher, le constater. Le jugement d'existence va devenir une constatation. La constatation, le fait d'exister, c'est une constatation. Et j'ai en herbe toute la position de Kant que la réalité dans sa profondeur, c'est le domaine qui m'échappe complètement. La seule chose que j'assimile, c'est l'acuité. Mais comme c'est grave, la seule chose que j'assimile, c'est l'acuité. Je n'assimile que donc l'aspect formel des choses. La réalité en profondeur, c'est-à-dire ce qu'est la réalité en elle-même, n'est pas assimilée. Je la constate par ma sensation. Ma sensation ne fait que toucher, et surtout le toucher, ne fait que toucher. Quand je touche quelque chose, je touche l'autre. Et l'autre, je ne le connais pas. La seule chose que je connais de la réalité, c'est ce que j'appréhende. Et donc, je réduis toute la connaissance à l'appréhension. Alors, je comprends la réaction violente d'un Sartre. Il dit ça dans Situation. La réaction violente d'un Sartre, cette philosophie de l'assimilation. Parce que le rôle de l'intelligence est réduit à l'assimilation. Quand Sartre dit ça, il s'oppose à la scolastique d'Occam. Et il a raison. Il faut bien le reconnaître. Il a raison. Pas si bête, Sartre. Réduire toute l'intelligence et tout le rôle de l'intelligence à l'assimilation, c'est insupportable. Parce que c'est s'enfermer dans la forme. C'est s'enfermer dans l'acuité. Et c'est ne plus rien saisir de l'autre en tant qu'autre. Je ne saisis que ce qui est mien. Je ne saisis que ce que je suis capable d'assimiler. Tout le reste, non. Alors Sartre oppose violemment cette philosophie de l'assimilation à la philosophie réaliste. Connaître, dit-il, c'est embrasser l'arbre. Non, pas du tout l'assimiler. C'est ce contact direct qu'est la connaissance. Et ce contact direct n'étant plus dans l'assimilation, il faut donc dire qu'il se fait dans un contact affectif, direct. J'embrasse l'arbre. C'est pour ça qu'il y a un lien entre Occam, Kant et la critique de ça. La position de saint Thomas, que j'essaie de comprendre, parce que de fait, saint Thomas ne fait pas un exposé critique du jugement. Donc c'est à travers toute son œuvre. Et c'est à travers toute son œuvre que j'essaie de saisir ce qu'est le jugement chez saint Thomas. La position de saint Thomas, je ne dis pas la position d'Aristote, parce que Aristote, c'est à l'état très embryonnaire. Aristote dit bien qu'il y a deux opérations de l'intelligence. Il le dit bien. Une qui ne saisit pas la vérité, l'autre qui saisit la vérité. Et pour Aristote, le jugement, c'est l'opération de l'intelligence capable de saisir la vérité. C'est très beau, du reste. Parce que c'est ça qui caractérise le jugement et qui montre que le jugement est seule une opération parfaite de l'intelligence. Capable d'atteindre la vérité. Une intelligence, tant qu'elle n'a pas atteint la vérité, est une intelligence assoiffée. Elle ne se repose que quand elle saisit la vérité. Et c'est la vérité qui est la perfection de l'intelligence. Il ne faut pas l'oublier. Être dans la vérité ou pas être dans la vérité, saisir la vérité ou pas saisir la vérité, c'est absolument essentiel pour ma vie intellectuelle. Autrement, vous êtes tout le temps affamé. Parce que vous n'avez pas le beefsteak. Vous le sentez, mais vous ne le voyez pas. Les abus gueulent. On va très bien. Vous ne saisissez pas la vérité. Vous saisissez les opinions. Mais c'est très bien, ça, c'est très bien. Un petit moment. Après, on s'énerve et on devient méchant. Le jugement pour Aristote est donc la seule opération qui est capable d'atteindre la vérité, d'être vrai. Et cette opération est complexe. Elle implique la composition, la division. Ça, Aristote ne dit pas plus. Il dit simplement cette chose, que c'est la seule opération qui est capable d'atteindre l'être. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est la seule opération qui est capable d'atteindre l'être. L'être dans son existence. Saint-Thomas va préciser que cette seconde opération d'intelligence, et c'est peut-être cela qu'il faudra corriger chez un Thomas. Parce que j'aime pas beaucoup te dire seconde opération d'intelligence. Je crois que c'est l'opération parfaite de l'intelligence. Pour venir au texte Aristote, c'est plus fort. C'est l'opération parfaite de l'intelligence. Ça te bâtit un et deux à la suite de Vicenne. Mais c'est dangereux, vous voyez. Puisque Occam continuera de dire un et deux. L'acuité et le jugement va saisir l'ipsum esse rei.